Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Georges-Émile Lapalme est un des personnages les plus fascinants de l'histoire moderne du Parti libéral du Québec et du Québec. Il a été chef du Parti libéral de 1950 à 1958. Il est méconnu, voire oublié. Heureusement, un documentaire intitulé « Intelligemment, mon père de la Révolution tranquille » lui est consacré et peut être visionné gratuitement sur Savoir TV. On a les deux artisans principaux de ce documentaire-là au bout du fil. C'est Jean-Pierre Dussault, bonjour.
Bonjour.
Réalisateur et Roger Lapalme, bonjour.
Bonjour.
Fils de Georges-Émile Lapalme et scénariste. D'abord, permettez-moi de vous dire que c'est un documentaire extrêmement bien fait. Vous avez des archives nombreuses, pertinentes, les images, les intervenants. Et aussi, c'est magnifiquement construit. Mais là, ma question, c'est comment vous en êtes venu à vouloir vous lancer dans cette aventure?
Je travaille avec Roger depuis plusieurs années. J'ai appris à un moment donné qu'il était le fils de Georges-Émile Lapalme, puis j'en connaissais très peu, mais je me souvenais du nom de M. Lapalme. Et puis, au fil des discussions, j'ai proposé de faire le sujet de son père en documentaire, puis je pense que Roger était pas prêt à ça, donc je te laisse continuer, Roger. Pour
ouais, ben, oui, je me sentais un peu trop près du sujet au départ, mais avec le temps, effectivement, j'ai vieilli aussi. Puis, à un moment donné, j'avais travaillé, moi, sur un projet d'adaptation de la pièce de Claude Corbeau sur mon père. Je voulais l'adapter pour le cinéma. Puis, j'ai travaillé là-dessus un certain temps. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était un documentaire. Et alors là, on a commencé les premiers jets là-dessus avec Jean-Pierre.
Mm-hmm. Et pourquoi il était important, en 2021, qu'on se souvienne du parcours de Georges-Émile Lapalme?
Je vous dirais qu'il était important il y a longtemps déjà, parce que notre projet a débuté autour de 2012-2013.
Oh, okay. C'est long les projets de documentaires au Québec. Il faut être patient. Moi, pour le dernier Felkis, on a commencé en 2010, puis on a fini en 2020.
Ben oui.
Alors, c'est important parce que c'est incroyable qu'il soit méconnu comme ça. Vous, Roger Lapalme, là, vous êtes le fils de... Et j'ai lu à quelque part que vous avez appris beaucoup de choses aussi, même si, évidemment, c'est votre, c'est votre paternel.
Oui, tout à fait. Moi, j'étais... quand j'ai réabordé ça, là, justement, pour le documentaire, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Dans mon enfance, mon père était le bon Dieu, puis Duplessis était le diable. Oui. C'était pas trop compliqué. Mais rendu à l'âge que j'ai, je me disais, quelle a été son importance, quel a été son rôle? Et une des premières personnes qu'on a appelées, c'est Yves Michaud, je me rappellerai toujours. Je lui dis que je travaille sur projet sur Georges-Émile Lapalme. Et la première chose qu'il me dit, c'est Georges-Émile Lapalme est le plus grand homme politique que j'ai connu de toute ma vie.
Ah oui?
Alors moi je suis ébranlé par ça, lui qui a été un petit peu de bras droit fidèle de René Lévesque et tout. Effectivement, j'ai découvert un homme que je soupçonnais pas, une espèce d'homme politique idéal, complètement désintéressé. Il devient chef de parti parce qu'il pense qu'il peut battre Duplessis. Il n'arrive pas à le battre à l'élection de 52. Il remet au lendemain, il remet sa démission au parti. Prenez quelqu'un d'autre si je fais pas l'affaire. Il y a aucune ambition personnelle, on dirait. Il y a énormément d'ambition pour nous tous, pour la collectivité. Et ça, par rapport à la langue et la culture, c'était un homme qui était intarissable. Mais il dit lui-même qu'il n'a jamais eu le virus de la politique. C'est pas compliqué, il l'a dit, ça.
Oui, il a même dit, on le voit dans le documentaire, j'ai perdu mon temps en politique. Comment il peut dire ça, puis en même temps, on sait qu'il est le père de la Révolution tranquille, d'une certaine façon, donc il est loin d'avoir perdu son temps, là.
Oui, Jean-Pierre. Je dirais, cette archive-là, qui est un extrait d'une entrevue qu'il a fait avec Jacques Languirand. On a eu la chance, je vais mettre mon chapeau de producteur. On a eu un premier financement qui est venu de la Ville de Québec, à la mesure d'aide au démarrage des productions cinématographiques. Puis ça nous a permis d'aller fouiller dans les archives. On a commencé par celle de Radio-Canada. Puis on a mis la main sur un paquet de trucs, dont cette entrevue-là. Et on l'a écouté chacun de notre côté, puis on l'a écouté ensemble, Roger et moi. Puis quand j'ai entendu ça, on prenait des notes, puis pour moi, là, quand il se fait poser la question, j'ai perdu mon temps. Je me disais, c'est la phrase à mettre en ouverture de film. Je trouve ça percutant.
Ben oui. Il y avait un côté cassant, Georges-Émile Lapalme, vraiment. On dit qu'il souriait pas trop. C'était presque un reproche des gens qui étaient autour de lui.
C'est un homme plutôt froid, je dirais, en personne, là, vous rencontriez. Il était pas, c'était pas le genre, les tapes dans le dos puis les grands sourires comme certains autres politiciens, pas du tout. C'est un homme plutôt froid, mais qui était tellement passionné par les idées, par l'action. C'était un homme d'action. Mm-hmm. Et les gens le suivaient pour ça. S'il a enthousiasmé quand même les libéraux pendant les années 50, c'est parce qu'il y avait une fougue, il y avait une ferveur, il y avait une croyance.
Parlons du traitement. Vous suivez tout le long du documentaire la fabrication du buste qui va être placé finalement, je crois, en 2017 ou 2018 devant le ministère de la Culture ici à Québec. Vraiment une idée géniale, parce qu'on voit tout au long, ça revient là, de cette présentation du buste, on va à l'endroit où on va couler le buste. C'est vraiment une idée formidable. Mais est-ce que le Parti libéral de l'époque, avec Philippe Couillard, voulait réhabiliter par ce buste-là Georges-Émile Lapalme? Il peut y avoir des parallèles à faire entre Couillard et Lapalme, non?
Ça me vient pas, là, mais...
Le côté cérébral, M. Couillard aimait beaucoup les idées aussi, il lisait énormément. Il n'y avait pas une idée aussi claire, peut-être, du Québec que Georges-Émile Lapalme, mais c'est ce que je veux dire, là.
En tout cas, lui, quand on s'est vu, il me parlait plutôt d'Adélard Godbout, qui était son modèle.
C'est vrai.
Je pense pas. Je pense que l'idée au départ, ce sont d'anciens ministres des Affaires culturelles qui se sont mis ensemble pour faire la proposition qu'il y ait quelque chose pour honorer la mémoire de mon père devant les locaux du ministère. Et le ministère a jonglé avec l'idée, différents types de soit une plaque, un monument, une sculpture, quelque chose comme ça. Puis finalement, ils ont choisi de faire un buste. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en collaboration d'ailleurs avec la Commission de la Capitale-Nationale.
OK.
Oui.
Jean-Pierre, oui.
Je reviens sur cette histoire-là, suivre la création du buste.
Oui.
Ça, c'est un autre des privilèges de prendre son temps. Comme le film était en train de se faire depuis un certain temps, puis que cette histoire-là s'est produite, là, je savais que Roger assistait à la sélection de l'artiste qui allait faire l'œuvre. Donc, ça nous a permis de suivre tout le processus. Michel Binette, l'artiste, a vraiment ouvert les portes de son atelier. Je suis allé faire les premières images-là. On a pu suivre ensuite le moulage, tout le processus ici, pas loin, à Inverness, à l'atelier du bronze. Mm-hmm. Donc, c'était pour moi, d'entrée de jeu, là, on a vraiment un fil conducteur. Ça nous permet de faire le lien entre la création d'une œuvre sur ce personnage-là. Donc, je trouvais que l'idée était vraiment arrivée à point.
Est-ce que c'est une victime, Roger Lapalme, votre père? Victime d'abord de Duplessis, qui a quand même truqué les élections de 1956, d'après ce qu'on comprend, et même à l'époque, ça avait été dénoncé, mais victime aussi de Lesage, qui, finalement, une fois élu, en 1960, lui donne pas les moyens, le regarde de haut, l'ignore presque. Est-ce que c'est une victime, Georges-Émile Lapalme?
J'hésiterais à employer ce terme-là parce que lui-même n'a jamais eu un comportement de victime. Mm-hmm. Je vous dirais ce que je répète tout le temps, mon père ne s'est jamais plaint. J'ai jamais vu mon père se plaindre une fois de toute ma vie. Jamais. Du sort qu'on lui avait fait. Jamais. Et Dieu sait que des coups de cochon, il y en a eu. Là. On peut parler de Louis Saint-Laurent, on peut parler de Le Sage, en tout cas, il y en a eu. Mais par contre, il se plaignait constamment du sort qu'on faisait à la langue et à la culture. Alors, c'est victime, il emploie le mot une fois dans son discours de démission en 1958 devant le Congrès.
Ah oui?
Il dit, j'ai accepté d'être la victime de la politique, mais non pas le complice. Et mais c'est la seule fois où il emploie ce mot-là. Mais oui, il a accepté tous les sales coups qu'il a eu à subir. Il les a acceptés, il les a encaissés en disant j'ai voulu y aller, j'assume. Il y a personne qui l'a obligé à aller en politique. Mais personnellement, je ne le vois pas comme une victime, non.
Mm-hmm. Tout au long du documentaire, on se demande si Georges-Émile Lapalme, puis je reviens peut-être à ma question où j'ai évoqué Philippe Couillard, est-ce que c'est devenu une sorte de passé gênant pour le Parti libéral? Parce que le Parti libéral est tellement différent. Quand on sait l'accent que Georges-Émile Lapalme a mis sur la langue, sur la culture, il me semble que c'est plus... C'est pas surprenant qu'Yves Michaud en ait fait un héros. Et donc, il est loin du Parti libéral d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il est gênant pour le Parti libéral d'aujourd'hui?
Ça, faudrait demander aux gens du Parti d'aujourd'hui. Je ne le croirais pas. Je pense que quand le Parti évoque son passé glorieux, il y a toujours la Révolution tranquille, puis Jean Lesage, etc. C'est quand même valorisé. Ça, je ne peux pas vous dire l'esprit du moment par rapport à ça, je ne le sais pas.
Quand on parle à tous les anciens ministres des Affaires culturelles, qu'ils soient libéraux ou péquistes, ils ont tous le même avis sur le personnage. Ça, je pense que ça dépasse les partis. J'ai bien aimé que Thierry pose la question à Roger dans le film, à savoir, oui, mais ton père, quelle était sa position par rapport à l'indépendance du Québec? C'est une question vraiment importante, parce que pour moi aussi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il aurait fait aujourd'hui dans un contexte politique? Comment il s'est enligné? J'ai aucune idée, mais la question était intéressante.
Est-ce qu'il a voté non en 80? Et est-ce qu'il a participé à la campagne comme ancien chef du Parti libéral?
Non, il était neutre lors du référendum. On lui a demandé de participer au comité du non, ou peut-être lui aussi, j'en sais trop rien, mais je sais qu'il a refusé. Il est resté neutre.
OK, il n'y a pas de trace de prise de position de lui en 1980?
Non.
OK. Où il était à l'époque, dans le sens de qu'est-ce qu'il faisait? Il était à la retraite ou...
Le référendum de 80, il est encore, je crois, conseiller culturel, conseiller spécial du ministre des Affaires culturelles.
OK.
Sous M. Vaugeois, dans l'époque, je pense.
C'est ça.
Ah, sous M. Vaugeois. OK.
Ouais.
Il fait partie de ces libéraux qui... Bon, René Lévesque, lui, évidemment, a fondé un parti, tout ça, mais ces libéraux qui auraient pu passer du côté, un peu comme Jean-Paul Lallier, très féru d'histoire et de culture et attaché à la langue française, à l'héritage français du Québec. Donc, franchir le Rubicon, là, puis devenir souverainiste.
Je vous laisse interpréter.
Parce que c'est de ce côté-là qu'on l'imagine, en tout cas, avec ses prises de position nombreuses et donc fermes à l'égard de la culture. Moi, j'ai été impressionné, par exemple, quand il parle de la langue française, il dit qu'on aurait pu faire comme les Turcs ou les Israéliens qui ont créé une nouvelle langue ou réactivé une langue ancienne. C'est fascinant.
Moi, je vous dirais, je ne l'ai jamais senti attiré aucunement par l'option indépendantiste, autre dans sa jeunesse. Quand il a lu les écrits de l'abbé Groux dans les années 20, là, puis là, il dit tout le monde l'était. De toute façon, au collège, tout le monde adhérait à ces idées-là. Mais sinon, non, j'ai jamais senti attiré par ça. Lui, comme je le mentionne brièvement dans le documentaire, il disait ce qu'il trouvait déplorable du nationalisme de Duplessis, de l'autonomisme de Duplessis, c'est qu'il ne débouchait sur rien. Ce n'était que des attaques contre Ottawa et puis du placotage, mais il ne se passait rien. Lui, il disait, on a énormément de pouvoir, servons-nous de ce pouvoir-là. Mm-hmm. Il se trouve que l'ouverture de la délégation générale du Québec à Paris, c'est un parfait exemple de ça. Ça faisait des années qu'il demandait ça, lui, à Duplessis. On voyait l'Ontario à côté, qui avait une maison de l'Ontario à Londres depuis des années, des années 50. Québec ne faisait rien. Québec avait le pouvoir de le faire. On n'avait pas demandé la permission. Mm-hmm. Mais on ne le faisait pas. C'était comme ça dans tous les domaines. C'était l'immobilisme. Alors, c'est pour ça que la Révolution tranquille a été tellement une période de si grand rattrapage. parce que, justement, on n'utilisait pas les pouvoirs qu'on avait. Mm-hmm. Je pense pas qu'il cherchait nécessairement plus de pouvoir, il cherchait l'action, l'action concrète. C'est avec ça. Les instruments qu'on avait.
Oui, Jean-Pierre?
Oui, je sais que les historiens n'aiment pas ça, ce que je vais dire, là, parce qu'on ne refait pas l'histoire, mais je me souviens que M. Yvon Dupuis, qui avait M. Lapalme à l'adoration, disait qu'on ne voulait pas qu'il parte en 58 quand il a remis sa démission après l'élection de 56. On se dit, qu'est-ce qui serait passé si, effectivement, au lieu de démissionner, il avait dit, bon, ben on y va en congrès, puis je suis là, je suis disponible. Ne sachant pas que Duplessis allait mourir, ni Paul Sauvé, la voie se serait ouverte à lui, il serait devenu le premier ministre de la Révolution tranquille. Donc, on ne refait pas les choses, là, mais je pense que son destin aurait été tout autre.
Très bien. Ben, merci infiniment pour cette conversation autour de ce formidable documentaire, malheureusement qui ne dure qu'une heure. On en aurait pris plus. Donc, c'est Mon père de la Révolution tranquille que vous pouvez regarder gratuitement sur savoir.tv. Merci Jean-Pierre Dussault, réalisateur. Merci. Puis merci à Roger Lapalme, scénariste et fils de Georges-Émile Lapalme. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.